Hop. Est-ce que ça a commencé? Ça devrait. Voilà, bonjour à tous. Est-ce que vous me recevez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? 5 sur 5, salut Samuel. Bonjour, bonjour à tous. Hop, je coupe le micro. J'espère que vous allez bien ce matin. Impeccable. J'ai l'impression de passer ma vie sur des lives en ce moment. Entre les jeudis VIP, les Techscopes, ça fait quand même des heures hein, dans la semaine. Ça fait quand même des heures. Allez, on commence tout de suite en remerciant nos contributeurs du jour. Aujourd'hui, j'aimerais remercier... Attendez, j'en suis où dans les remerciements? Petite vérification, oui. 201, 205. Emmanuel, Tain, Électron Libre, Samuel, un grand merci à toi. Non seulement Samuel est un peu notre... c'est un chatbot avec une intelligence pas du tout artificielle, Samuel, notre assistant de tous les lives, qu'on remercie chaleureusement, qui est là presque plus souvent que nous sur les lives. Donc un grand merci à toi, Samuel, puisque non content de nous aider, tu es également un contributeur. Et on remercie également Rudy. Rudy, merci beaucoup à vous les contributeurs sans qui nous ne serions pas là. Je propose un tonnerre d'applaudissements pour Samuel, si vous êtes dans la chatroom. Et pour ne pas se soustraire à nos bonnes habitudes, aujourd'hui, nous allons voir une expression désuète française en attendant que la chatroom se remplisse. Alors, on en est où? On en est là et j'ai perdu mon crayon. Ah! Bah alors. Voilà. aujourd'hui, nous allons voir prendre du carat. Plus l'or a de carat, plus il contient de l'or fin. Plus un diamant a de carat, plus il est gros. L'expression réhabilite le vieillissement en l'assimilant à un critère de qualité. Donc, vous pourrez dire, dans votre prochain dîner mondain, « Je connais un YouTuber plein de carat. » Ou qui prend du carat, pardon. Hein ? Bah oui, hein ? Puisque ça réhabilite le vieillissement. Ouais. Ouais, ouais, ouais. On va se dire ça. « Je frise comme hier. » Bon, bah, il y a des problèmes de réseau. Bah, désolé, je n'y peux rien. Il doit y avoir des défaillances sur Orange. C'est un problème avec YouTube ou le réseau. Je ne sais pas. J'espère que ça va revenir comme c'était avant, bientôt. J'essaierai peut-être quand même un reboot, mais après l'émission, de l'ensemble de mon modem. Mais je ne l'ai pas fait avant de commencer. Voilà, voilà, vous pourrez dire aussi, par exemple, que les iPhones prennent du carat. Hein. D'ailleurs, aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai mon beau t-shirt Red, normalement, si tout se passe bien, c'est l'arrivée de l'iPhone XR que j'ai pris en Red. Je ne sais pas s'il y aura quelque chose aujourd'hui, ça dépend complètement de l'heure où on le reçoit, avant que vous me demandiez tous. Un McDo, c'est mondain, tu peux... C'est plus difficile, mais tu peux. Le mondain, c'est une question d'habitude. Ça doit être un problème, effectivement, avec le réseau. Hier, on était en 4G pour le jeudi VIP et ça passait bien. Donc, il doit y avoir un problème, effectivement, avec mon réseau. Bon, je jetterai un œil tout à l'heure. Mais alors, les réseaux, il y a un petit peu un côté magie noire, hein, quand même. Les réseaux, il y a des jours ça marche, il y a des jours ça marche pas bien, on ne sait pas bien pourquoi. C'est pas super fiable tout ça. Oui, oui, je sais, il y a du lag, je n'y peux rien, je n'y peux rien. Vous non plus d'ailleurs, à part vous plaindre, mais vous n'y pouvez. Je vois, hein, j'ai un petit œil ton rouge qui m'indique effectivement le nombre d'images perdues. On est à 27% pour être précis d'images perdues. Mais je ne peux pas y faire grand-chose. Est-ce que je peux... Je ne voudrais pas me lancer dans des réglages trop compliqués. Ouais, mais baisser la résolution, je ne sais pas si ça peut améliorer vraiment les choses. Non, après, il faudrait que je rentre dans les... Oh là, dans les trucs compliqués de OBS et j'ai peur de tout faire planter. Allez, go, sommaire. Go, sommaire. Faut une pancarte pour dire que c'est pas ta faute. Oui, ou un t-shirt. Si vous avez du lag, c'est pas ma faute. C'est la faute de, je sais pas, on ne sait pas qui. Allez, on passe au sommaire de quoi on va parler ce matin. Si le son est bon, hein, du Texcope, vous arriverez à suivre. Tant pis si je lag un peu, de toute façon, c'est pas comme si je vous faisais des pirouettes pendant l'émission. Allez, aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de Xiaomi qui a présenté son Mi Mix 3, un smartphone sans encoche, avec également un système de slide qu'on avait déjà vu il y a 2 jours, avec le Honor Magic 2. Quand je vous dis qu'il y a un smartphone qui sort par jour en ce moment, je plaisante pas, hein. Heureusement que je ne vais pas tous les faire en test sur la chaîne, hein. Nous parlons également de Google qui est pris dans un nouveau shitstorm, un shitstorm interne avec des comportements sexuels inappropriés. Et là, c'est carrément Andy Rubin qui est dans le nœud du cyclone, dans l'œil du cyclone, dans l'œil du cyclone. Et on s'aperçoit que Google cherchait et cherche un petit peu à dissimuler les choses, ou en tout cas à les passer sous le tapis. On parlera également de Facebook qui va écoper d'une amende maximale pour la fuite de données catastrophiques à l'origine de l'affaire Cambridge Analytica. Une grosse amende en Angleterre, en tout cas. On parlera aussi, et peut-être que vous en avez été surpris, des baisses de prix chez Apple. Mais que se passe-t-il? Apple a-t-il décidé de rogner sa marge? Eh bien, pas du tout. Et je vous dirai pourquoi les iPhones et les iPads coûtent moins cher depuis quelques jours sur l'Apple Store et pourquoi les prix n'ont pas changé ailleurs. On parlera également d'une arnaque à laquelle vous devez faire attention, une arnaque à la trottinette. Et oui, quelle époque formidable, arnaque à la trottinette, puisque vous avez peut-être été confronté à une publicité sur Facebook notamment ou sur Instagram d'une trottinette électrique Xiaomi à 131 € au lieu de 330 €. Oh, la bonne affaire! Eh bien non, mon con, c'est une bonne affaire pour se faire piquer son numéro de carte bleue. Donc méfiez-vous des prix les plus bas. Et nous parlerons également d'une histoire drôle qui va pas faire rire tout le monde, mais que j'ai quand même trouvé drôle, puisque c'est ces fameux ambassadeurs, notamment de la marque Samsung, qui n'arrivent pas à lâcher leur iPhone et qui, vous avez déjà vu, hein, des gens qui tweetent une superbe photo de leur nouveau Samsung ou d'autres marques d'ailleurs, mais ils oublient qu'on peut très bien savoir de quel smartphone un tweet est parti et on s'aperçoit que bien souvent, ces influenceurs tweetent avec un iPhone alors qu'ils sont payés par Samsung. Eh bien, cette fois, Samsung a décidé de ne pas se laisser faire et il y a un gros procès qui risque de se passer en Russie. Voilà. C'est lourd à retenir, limite qu'il faut remonter les nouveaux prix Apple. Ah, j'ai pas compris. Mais c'est pas grave, on en parlera tout à l'heure. Voilà. Pour le sommaire du jour, j'espère qu'il vous va, j'en ai pas d'autres. Formule consacrée et traditionnelle du Texcope. On va commencer tout de suite par Xiaomi. Xiaomi a présenté hier son Mi Mix 3, un smartphone vraiment sans encoche, mais quand même avec un écran borderless. Comment ils ont résolu cette équation? Je vais essayer de vous montrer des images en plus grand. Pour qu'on découvre ensemble le Mi Mix 3. Comme vous le voyez, l'écran monte tout en haut, il n'y a pas d'encoche. Il descend plutôt tout en bas. Et on se dit, mais où est-ce qu'ils ont mis les caméras de façade? Eh bien, ils ont exactement la même astuce qu'on a vue avec Honor. On le voit un petit peu ici. Vous voyez qu'on peut slider l'écran vers le bas avec un système magnétique qui va permettre de dévoiler, en fait, la caméra d'un geste simple. Il faudra faire schlack et les caméras apparaîtront comme par magie. Donc, On le savait, hein, puisque Honor avait dit « Nos excuses à Xiaomi, on a eu un peu la même idée en même temps ». C'est vrai que c'est... Après, est-ce que... Je sais que c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que c'est solide? Est-ce que c'est fiable? Est-ce qu'au bout de 2 ans, j'aurai des moutons qui auront encrassé la charnière magnétique du slide hein? Oui, je sais qu'il y a du lag hein, au niveau image. Hein, j'en suis désolé. Ah ouais, ouais, c'est grave, là, le lag. Écoutez, tant que le son passe, on va faire comme ça, hein. Oh là 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 là, c'est pas bon du tout, c'est pas bon du tout. Le problème, c'est que si je change de Wi-Fi ou que j'essaie de changer de Wi-Fi, on va couper le flux, donc c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Ben, j'aimerais bien couper Windows Update, mais si j'étais sur Windows, je suis sur macOS. Non, mais là, c'est un problème de réseau. J'essaye de voir hein, si j'ai une solution ailleurs, mais je n'en vois pas. Je n'en vois pas. Ça m'embête hein, que vous ayez ces conditions de live. Je réfléchis une seconde. Hein. Flux, ça je peux rien faire. Sortie. Dégage. Fast. Non, mais j'ai peur de toucher à ces réglages-là. J'ai vraiment peur de créer un problème. Ouais, mais si je change le bitrate sur OBS, il y a une chance sur deux que ça plante le flux. Hein. Alors, on peut pas trop changer ce genre de truc en temps réel. Là, on en est à 44% d'images perdues. C'est un petit peu embêtant. Non, mais ce qui m'embête, c'est que si chez certains, vous recevez même pas le son, l'image, à la limite, on s'en fout. Le son, c'est plus embêtant, quoi. Donc, confirmez-moi que vous recevez pas le son pour certains. Non, l'image, on s'en fout, on est bien d'accord, hein. La vue iPad était fluide. Ouais, en même temps, je bougeais pas beaucoup hein, sur le flux iPad. Ta-ta-ta. Attendez, on va essayer quelque chose. On va essayer quelque chose. Hop. Petit changement de vue. Là, est-ce que c'est meilleur au niveau de l'image ou pas ? J'ai changé l'angle de vue. Hein. On passe sur la caméra interne du Mac. Est-ce que l'image est meilleure? Est-ce que c'est plus fluide? Ok, là, je suis fluide. Ok, donc ça viendrait de ma webcam. Alors, je vais essayer de la rechanger. Non, c'est pareil. Ouais, non, j'ai les mêmes pertes. J'ai les mêmes pertes. Bon, écoutez, on va continuer. J'espère quand même que ça ira à peu près pour vous. J'espère que ça ira à peu près pour vous. Bon, allez, on continue. Parlons donc du Xiaomi. Le Xiaomi, donc, il a un système un peu de cran d'arrêt pour faire apparaître les caméras avant. Il aura un écran donc OLED de 6,4 pouces qui occupe 93,4% de la surface du téléphone. Il aura donc deux appareils photo avant, un 24 mégapixels et un 2 mégapixels, donc probablement pour les profondeurs d'un mode portrait en selfie. Deux appareils photo arrière, tous les deux seront de 12 mégapixels. C'est la première fois que j'entends parler d'un appareil photo avant qui aura plus de mégapixels qu'un appareil de photo arrière. Est-ce que c'est une erreur dans l'article? Je ne sais pas. C'est bizarre, mais pourquoi pas. Il y aura donc un mode slow-mo à 960 images par seconde. Bon, là, l'exemple qu'ils ont envoyé, c'est un exemple en plein soleil. Vous savez très bien que ces slow-mo sur smartphone, leur gros problème, c'est souvent ce que ça donne en moyenne ou en basse luminosité. Donc, il faudra attendre de voir des tests un peu plus poussés avant de s'enthousiasmer. Oui, non, j'ai un problème avec mon câblage Ethernet. C'est pour ça que l'émission n'est pas en Ethernet. Et de toute façon, si on a un problème sur le réseau, ce n'est pas l'Ethernet qui le résoudrait. Il aura un processeur Snapdragon 845. Il va se démarquer avec une version haut de gamme qui aura 10 Go de RAM. Alors, est-ce que 10 Go de RAM, c'est vraiment utile sur Android? On sait qu'Android a besoin quand même de pas mal de RAM pour fonctionner, en tout cas plus de RAM que iOS. Est-ce que 10 Go de RAM, ça accélérera vraiment un smartphone? C'est à voir. Est-ce qu'on est dans de l'argument marketing ou pas? Sachant que, bon, on parlera des prix après, tous les Mi Mix 3 n'auront pas 10 Go de RAM. Hein. C'est vraiment le haut de gamme du Mi Mix 3 qui aura 10 Go de RAM. Il aura également un modem 5G, donc ça le mettra vraiment prêt pour le réseau 5G qui est prévu en 2020. Et il aura un chargeur sans fil de 10 watts qui sera fourni avec le téléphone, ça, ce qui est plutôt une bonne chose. Les prix sont assez agressifs, mais en tout cas, c'est les prix chinois. On ne connaît pas les annonces et les prix exacts européens. Pour l'instant, la sortie est plutôt prévue pour la Chine. On ne sait pas quand ils arriveront chez nous. Environ 420 € pour la version 6 Go et 128 Go de mémoire. 455 € pour 8 Go et 128 de mémoire. 504 pour 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire, et 630 € pour l'édition spéciale Palace Museum avec 256 Go de mémoire et 10 Go de RAM. Donc à voir. C'est plus que sur mon PC 10 Go de RAM. Non, mais c'est clair, les smartphones deviennent mieux équipés que nos PC d'il y a quelques années. Hein. Oui, Cédric, merci. Hein. Je vous remercie beaucoup hein, tous d'essayer de me dépanner. Le problème, c'est que si je tente un switch sur l'Ethernet là, ça va tout couper. Et si on coupe, on génère un nouveau lien de live et ça risque d'être le bordel. Donc, j'hésite toujours à faire ce genre de manip parce qu'on perd toujours du monde en route. Allez, on continue dans les articles. On va parler effectivement de Google, shitstorm chez Google, encore un. Et cette fois, c'est des problèmes de harcèlement et de mauvaise conduite sexuelle chez Google. Et ça touche un peu le haut du panier chez Google parce que cette triste histoire toucherait directement Andy Rubin. Andy Rubin, c'est celui qu'on dit être l'inventeur d'Android. Il a effectivement quitté Google depuis. C'est une affaire qui remonte à l'époque où il était chez Google. Et le scandale viendrait plutôt du fait que Google a essayé un petit peu de masquer cette histoire tout en accordant quand même un package de départ à Andy Rubin de 90 millions de dollars et 2 millions de dollars par an pour quelqu'un qui effectivement avait une mauvaise conduite. On ne va pas partir hein, dans la polémique, mais je vous rappelle que quelqu'un qui est en situation de pouvoir, donc quelqu'un comme Andy Rubin, qui était quand même un des vice-présidents de Google, normalement doit déclarer à son entreprise s'il y a une relation dans l'entreprise. Le plus grave, c'est que cette relation dans l'entreprise l'accuse de, on va pas rentrer dans les détails, mais d'un acte sexuel forcé dans une chambre d'hôtel en 2013. Et d'ailleurs, là où ça devient grave, c'est que Larry Page, a priori, était au courant, ainsi que un certain nombre de cadres de chez Google. Et ils lui ont demandé effectivement de démissionner de Google. Ça serait la raison non officielle du départ d'Andy Rubin. mais en lui donnant quand même un gros package de départ. Ce qui, généralement, on ne se fait pas avec quelqu'un qui a fait une grosse faute, quoi. Polémique vont bien. Ah, polémique. Ouh là là, les jeux de mots, les gens, là, la chatroom. Effectivement, on dit Rubin n'aurait pas eu qu'une seule relation sexuelle déplacée. On dit qu'effectivement, il avait plusieurs relations avec plusieurs employés de chez Google et notamment des gens qui étaient sous son management. Bon, après, on n'a pas apporté un jugement moral tout en étant, mais on va le dire quand même parce que ça fait partie de l'info, tout en étant marié officiellement à quelqu'un qu'il a rencontré chez Google. Bon, ça, après, c'est les affaires. On n'est pas des Américains, hein, on va pas... Enfin, on n'a pas à fustiger quelqu'un pour sa vie sexuelle et sa morale. Mais bon, le gros problème dans ce type d'histoire, c'est pas tant d'avoir des relations sexuelles, parce que, bien au contraire, c'est pas forcément un problème, quoi. Mais c'est plutôt d'abuser d'une position dominante, de gens qui craignent pour leur emploi, de gens qui craignent pour leur avancement dans la société, et d'abuser de cette situation... dans des histoires extra-conjugales, dans le cas présent. C'est toujours des histoires compliquées parce que, voilà, on le sait, là aussi, on rentre dans les détails un peu sordides, mais dans ce genre d'histoire, ça sort que manifestement, Andy Rubin était plutôt quelqu'un dont, on va dire, avec une certaine forme d'un fétichisme sexuel lié justement au pouvoir. Il aurait envoyé effectivement des mails à des personnes de l'entreprise avec qui il avait des relations en leur disant qu'ils étaient maintenant un peu son esclave. Donc c'est sûr que si tu écris ça dans des mails, c'est quand même pas génial, on va dire, pour l'ambiance au boulot, quoi. Et que également, il aurait été à une époque, on aurait découvert sur, enfin, la sécurité chez Google aurait découvert sur son ordinateur pas mal de vidéos de bondage. J'ai peut-être pas besoin de vous décrire ce que c'est. Enfin, je vais peut-être le décrire, il y en a qui ne le savent pas. C'est simplement un fétichisme autour de femmes ou d'hommes qu'on attache très fort avec des cordes. Voilà. C'est une forme de fétichisme. Bref, une histoire qui sent pas bien bon. Surtout en ce moment où justement, et d'ailleurs, Sundar Pichai a fait passer une note chez Google très récemment, en disant on ne déconne plus une seconde avec ces histoires, quoi. En gros, c'est un peu le problème de ces histoires, on pourra en débattre longtemps. C'est des choses qui se sont passées à des moments où le MeToo n'existait pas, et ça ne rend pas les choses excusables du tout. Mais il n'y avait pas cette prise de conscience, même si on connaît depuis longtemps hein, les chantages sexuels dans les entreprises et ce genre de choses. Oui, il y a certaines personnes qui ont remonté des dossiers d'il y a assez longtemps, et c'est terrible pour leur carrière, mais quelque part c'est mérité, et si quelque part ça peut faire progresser les aspects civilisationnels dans les entreprises et les comportements, si ça fait progresser, j'ai envie de dire... c'est comme ça. Jérôme a l'air vachement au courant de ce fétichisme. Oh, j'en ai des fétichismes, mais alors celui-là, pas du tout. Hein. Tu sais, le rôti, je l'aime bien au four, hein, c'est tout. Hein. C'est un peu... Enfin, un truc ficelé, à part un rôti... Non. Oui, le problème, effectivement, comme tu dis, Tofu Sauvage, chacun sa sexualité, chacun sa vie de couple, on n'a pas à juger. Et même, c'est ça qui me déplaît un peu, là, c'est un article américain, c'est qu'il y a une forme de jugement moral en parlant de ces histoires de bondage et de relations extra-conjugales. Nous, en Europe, on n'est pas à juger trop moralement les gens. Nos présidents ont des maîtresses, on ne les met pas au pilori pour autant. Par contre, ça nous est aussi arrivé qu'il y ait des abus de pouvoir ou que quelqu'un, pour dissimuler une maîtresse ou une fille cachée, abuse de sa position de pouvoir. On pense effectivement à Mitterrand qui utilisait les services secrets français, donc les impôts des Français, pour dissimuler sa deuxième vie. Et sa fille, voilà, ça par contre on plaisante pas avec ça, et quelqu'un qui va abuser de sa position de pouvoir pour obtenir effectivement des choses, le problème c'est que c'est jamais très clair, parce que où est le jeu sexuel, où est l'abus de pouvoir, c'est toujours difficile à détricoter, quoi. Qu'est-ce que vous dites? Là où il y a de l'homme, il y a l'homerie. Ça va pas bien la chatroom ce matin. Les Américains sont tellement coincés en façade. Donc ils ont pas les mêmes. C'est pas la même chose que chez nous, quoi. Ils voient les choses différemment. Il y a des choses pour eux qui sont inadmissibles, qui chez nous passent, quoi. Et vice-versa, hein, d'ailleurs. Oui, après la présomption d'innocence, bien sûr qu'il y a toujours une présomption d'innocence. Là, quand même, l'histoire a l'air bien... On verra, hein, effectivement. Mais l'histoire a l'air bien sale, quand même. Moi, après, je ne fais que reporter, de vous informer de ce qu'on lit dans la presse ce matin. Alors... de choisir de vous en informer, effectivement, je vais contre la présomption d'innocence, mais il ne faut pas oublier qu'il y a le droit à l'information aussi. Hein. La présomption d'innocence, c'est un débat complexe, ça aussi. Il n'y a pas de présomption d'innocence aux États-Unis. Oui. Le problème du consentement sexuel, c'est que parfois l'exercice du pouvoir est quelque chose de subtil et qui se passe aussi au niveau de l'inconscient. Donc là, si on décrypte complètement l'histoire, c'est parti d'une histoire qui manifestement était consentante. L'histoire est devenue non consentante au bout d'un moment, mais Andy Rubin a continué à exiger des faveurs. C'est du passé, oui, mais est-ce que c'est parce que c'est du passé, faut tout oublier? Ça aussi, hein, débat de philo. C'est quoi le vrai délai de prescription? Et est-ce qu'on doit prescrire, je sais pas comment on dit, mais est-ce qu'on doit oublier toutes les histoires parce qu'elles datent? J'espère pas. C'est pas une question d'être adulte ou pas, sanglier. C'est une question d'abus de position dominante. Si quelqu'un utilise effectivement sa position dans une société pour obtenir des comportements de quelqu'un d'autre, c'est un abus de position dominante. Donc, voilà. Bon. Oui, le scandale n'est pas qu'il ait eu une histoire avec plusieurs personnes de chez Google. Là, c'est qu'il y aurait eu une femme à porter plainte pour comportement sexuel obligé, déplacé, dans une chambre d'hôtel. Donc, c'est quand même des faits graves. Non, sanglier, là, justement, alors, tu fausses complètement le débat en disant ça. Il faut bannir toute relation au sein de l'entreprise. Non, mais il faut savoir qu'au sein des entreprises, et chez Google, il y a une règle. C'est pas forcément proscrit d'avoir des relations dans l'entreprise, mais par contre, des relations avec des subalternes, avec des gens qui sont sous tes ordres, tu dois en informer Google. Il y a plusieurs histoires, hein, mais tu dois en informer, parce que ça fausse la donne. Bon, on va pas rentrer dans le débat, mais c'est trop simple de dire « Ah, oh, mais on interdit toute relation dans l'entreprise. » Vous passez du coq à l'âne, en fait, en disant ça. Bon, on va changer de sujet parce que ça dérape. Allez, on va parler de Facebook qui lui aussi dérape. Il dérape sur une grosse amende. Ils viennent de choper l'amende maximale pour une fuite de données catastrophique à l'origine de l'affaire Cambridge Analytica. On ne va pas revenir sur cette affaire. Je vous rappelle quand même que ça a touché 87 millions d'utilisateurs de Facebook. Ils ont écopé d'une amende de 500 000 livres, ce qui équivaut à peu près à 566 000 euros. Ils ont écopé de cette amende par le commissariat à l'information du Royaume-Uni suite justement à la fuite de données à l'origine de l'affaire. Putain, je viens de me prendre un pop-up. Vous avez été choisi pour gagner un MacBook Air, un Samsung Galaxy S9 ou un iPhone XS pour 1,50 euros. Connard. Cliquez sur OK pour obtenir votre prix. Ah, putain. Hop, je kill l'app. Putain, je savais pas que ça pouvait remonter ce genre de truc dans Liner. Mais bon. Attendez, je retrouve mon article. J'espère que je ne vais pas me reprendre le pop-up, c'était bien pénible. Alors effectivement, c'est un petit peu c'est le commissariat de l'information du Royaume-Uni qui a condamné donc... putain, je me reprends le pop-up. Donc ils ont l'intention d'infliger cette amende à Facebook. putain, j'irai plus jamais sur ce site. Après Cambridge Analytica ait exploité les données de 87 millions d'utilisateurs. Alors, c'est une amende au prorata du chiffre d'affaires d'une boîte comme Facebook. C'est assez ridicule. Ils l'ont échappé belle puisque l'affaire n'est pas tombée sous la coupe de nos nouveaux règlements de la RGPD. D'ailleurs, je me demandais, est-ce que avec le Brexit, le RGPD, bah non, l'Angleterre va avoir des nouvelles règles, je pense. Là, après, j'y connais rien, mais je pense pas que ça va devoir changer en Angleterre. Mais si la RGPD avait mis son nez dedans, la RGPD peut infliger des amendes jusqu'à 4% d'un chiffre d'affaires global. Donc là, ça ferait beaucoup plus mal, parce que si on tape dans le chiffre d'affaires global de Facebook, ça aurait été une amende de 1,6 milliard de dollars. Et 1,6 milliard de dollars, là, ça commence à faire cher l'amende. Là, ça pique. Là, ça pique. Et d'ailleurs, c'est bien que la RGPD ait ça dans l'arsenal, des amendes qui tapent directement dans le chiffre d'affaires, parce que 566 000 euros, c'est la limite maximum que peut infliger le commissariat à l'information du Royaume-Uni. Donc, quelque part, c'est une petite tape sur les doigts que se prend Facebook, mais... Là, ça les fait peut-être quand même un petit peu réfléchir en se disant « Ah ouais, maintenant, la RGPD, elle déconne plus, quoi. » Après, on blâme... Ah, vous n'allez pas me ramener les adblockers, hein. Les adblockers, vous contribuez à un business de gens qui profitent du contenu des autres. Donc, c'est pas parce que j'ai des problèmes avec la pub que je vais soutenir les adblockers. Le marché et le fric qui se fait avec les adblockers, ça me dégoûte de plus en plus, quoi. Donc, me chauffez pas sur le sujet. Je deviens de plus en plus anti-adblocker. Bref. Et là, je pense que je vais en chauffer quelques-uns dans la chatroom qui vont me rentrer dedans. Mais bon, vous m'avez chauffé en premier. Mais c'est du racket, les adblocks. Et vous contribuez à ce business en utilisant les adblockers. Tout ce que j'ai à dire sur le sujet. Voilà, en tout cas pour Facebook, une petite tape sur les doigts, mais avec la promesse d'une bonne grosse baffe s'ils continuent à déconner avec notre data. Ça serait bien quand même qu'il y ait une prise de conscience générale là-dessus. Mais j'ai l'impression que Facebook a quand même compris. Hein. Je ne pense pas qu'on les y reprendra. Comment faire démarrer, Jérôme? Tu m'étonnes. Vas-y, lance-moi sur les adblockers. Tu vas voir comme je vais te rentrer dans les choux, là. Comment ils récupèrent les sous, les adblocks, Technique Savoir? Mais renseigne-toi un peu. Ils contactent les sites en disant « On vous débloque de notre adblocker si vous nous donnez telle somme d'argent ». Voilà. Tu vois, si tu voyais un film où il y a un mec qui rentre dans une boulangerie ou dans un bar, dans une rue, en disant « Alfonso, si tu ne me files pas 10% de ton chiffre d'affaires, il va arriver un pépin à ton bar. » Tu diras « Oula, c'est la mafia, hein, c'est pas beau ça. » Bah, c'est un peu ce que font les adblockers. Voilà, je t'ai schématisé un petit peu les choses, mais voilà. Ah, c'est la mafia, complètement. Donc, ne croyez pas que vous luttez contre les pubs en prenant des adblockers. Hein. Vous ne faites que empirer le mal. Bref. Ah oui, c'est du racket. Il n'y a pas d'autre définition. C'est du racket. Bien sûr, c'est du chantage, c'est du racket. Mais vous étiez naïf. Vous êtes naïf si vous n'êtes pas au courant de ça. Vous êtes complètement naïf. Allez, focus. Ouais, mais vous m'avez fait sortir de mes gonds. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bref, allez. On va parler de pourquoi les iPhones et les iPads coûtent moins cher sur l'Apple Store. Apple ferait-il des réductions? Apple chercherait-il à nous faire plaisir? Y aura-t-il bientôt des soldes chez Apple? Eh ben non. Non, les soldes, elles sont sur la copie, sur la vie privée. Puisque effectivement, c'est la redevance sur la copie privée qui baisse. Et c'est malin. En fait, c'est une baisse. Je vous explique. La copie sur la vie privée a revu son barème pour pouvoir taxer une nouvelle catégorie de produits que sont... les tablettes ordinateurs, les hybrides comme on les appelle, type Surface, type Yoga et ce genre de choses, pour qu'elles rentrent un petit peu sous la taxation. Donc ils ont revu leur barème, ce qui fait que les barèmes hauts ont augmenté, mais du coup les barèmes bas, puisque vous savez que la redevance sur la copie privée est liée à la taille de la mémoire que vous avez dans l'appareil que vous achetez. Donc il y a eu des baisses. Alors, très honnêtement, ce n'est pas des baisses gigantesques. Hein. En gros, l'iPhone XS, qui normalement coûte 1159 €, on le trouve aujourd'hui à 1155,28 €. Donc, on n'est plus dans les chiffres ronds jolis d'Apple. Là. Ils ont fait un peu les calculs à la truelle. Un iPad qui est à 358,40 €, et donc il n'est plus à 359 €. Waouh, l'économie! Ah non, pardon! Ah non, et l'iPad Pro, oui, pardon. Et l'iPad Pro démarre à 728,28 € dans sa version 10,5 pouces. Donc, ce qu'a fait Apple, c'est qu'ils ont simplement appliqué ce nouveau barème de la redevance sur la copie privée. Donc, fausse joie, Apple ne baisse pas ses prix. Et je peux vous dire que ce n'est pas demain, la veille, qu'Apple baissera ses prix. Arrêtez de vous mettre le doigt dans l'œil jusqu'au genou chaque année en me demandant quand est-ce qu'Apple va baisser ses prix. C'est comme si vous me demandiez quand est-ce que Chanel va faire du low cost. Bon, en même temps, ils en font. C'est pas un bon exemple. Quand est-ce que Jérôme arrivera à faire un Techscope sans défocuser sur ses articles? C'est juste quelque chose de pas possible. Apple ne baissera jamais ses prix. Bref, pourquoi? Et alors là, parce que plein de gens se sont posés la question, mais ça baisse dans les Apple Store, mais pourtant à la Fnac, il y a les mêmes prix. Et pourquoi ça baisse pas ailleurs? Eh bien, c'est simplement parce que les autres enseignes n'ont pas encore appliqué la baisse sur la redevance à la copie privée. On sait notamment dans le monde Android, le OnePlus n'a pas encore baissé les tarifs de son OnePlus 6. Les téléphones Xiaomi sont également vendus au même prix qu'avant. Les Pixel 3 de Google n'ont pas bougé non plus. Ça va venir, dans les jours à venir, ils vont probablement répercuter. S'ils ne les répercutent pas, ça veut dire qu'ils augmentent un petit peu leur marge en profitant d'une baisse de la redevance sur la copie privée. Apple baisse le prix de l'iPhone 7 tous les ans. Oui, un peu. Ah, vous connaissez pas l'expression se fourrer le doigt dans l'œil jusqu'au genou? Ah, ça fait aussi partie des expressions françaises désuètes. Voilà, en tout cas, vous avez l'explication pourquoi il y a une baisse de prix chez Apple. En parlant de baisse de prix et de prix bas, méfiez-vous des trottinettes. Les trottinettes envahissent nos rues, envahissent nos rêves, envahissent notre vie. Non, à la trottinette. Non, c'est très bien les trottinettes. Mais à force de vouloir chercher les prix les plus bas, eh ben, au bout d'un moment, on se fait attraper à son propre jeu. Peut-être que certains d'entre vous, et en tout cas il y a un bad buzz, autour d'une publicité qui propose une trottinette électrique Xiaomi à 131€ au lieu de 330€. C'est une arnaque, méfiez-vous, elle est diffusée sur Facebook et on la retrouve je crois aussi sur Instagram. C'est un site internet qui s'appelle Get My Scooter, un look épuré, permet de commander la M365, hein, le modèle très populaire de la trottinette électrique de chez Xiaomi, à 131€ au lieu de 399€. J'ai dit 350, mais c'est 399€ sur le site officiel de Xiaomi. Ce site non officiel demande toutes les coordonnées de l'internaute, nom, prénom, mail, adresse postale, ainsi que son numéro de carte bancaire, avec le petit code 3 chiffres, vous savez, celui qui permet de faire des achats en ligne et tout ça. Mais une fois que vous passez à la caisse, il ne se passe plus rien. Vous venez de vous faire avoir. Xiaomi a formellement démenti être derrière ce site, ils ne les connaissent pas. En fait, ces sites pullulent. Dès qu'il y a une tendance dans la tech, on voit beaucoup de ces sites se monter. C'est vraiment des sites qui sont là uniquement pour capter votre numéro de carte bleue avec votre nom, votre téléphone, ce qui permet, je le rappelle quand même, de faire pas mal de choses malveillantes sur une carte bleue quand on a toutes ces informations là. Donc là où il faut se méfier effectivement, déjà une règle d'hygiène numérique, méfiez-vous des prix cassés sur un site que vous ne connaissez pas. Méfiez-vous de ces annonces, méfiez-vous de ces prix incroyables. Ah, je peux avoir l'iPhone 10S, ah. Bon, on l'a vu, on a parlé de l'histoire de Jojol et tout ça, et du site, je sais plus comment il s'appelle, machin, mais d'une manière générale, enfin moi, je sais pas vous, mais moi, quand je vois des trucs, le prix trois fois moins cher, je fais, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, t'essaies de me la mettre à l'envers, là. Je suis extrêmement méfiant sur ce genre de choses et je suis très très méfiant sur les sites où je mets ma carte bleue. Je y regarde à deux fois et il y a plein de sites que j'évite. Je suis en embuscade de trolls dans le buisson à gauche. Qu'est-ce qui se passe dans la chatroom ? Ah, mes frises d'image font que j'ai des têtes pas possibles, ok. Oui, ceux qui se lancent dans les enchères d'iPhone à 1,49€. Bon, de toute façon, ça n'a pas attendu la tech, hein, depuis que l'argent existe. Il y a toujours des mecs qui trouvent des moyens de soutirer de l'argent aux gens. Voilà, et il y en a qui sont brillants avec ça. En général, la vente, c'est pas de l'altruisme, il faut toujours... Mais moi, je vous le dis, c'est exactement la question que vous devriez vous poser avec les ad bloqueurs. Quand vous dites, putain, c'est trop beau pour être vrai, bah, c'est que généralement, c'est trop beau pour être vrai. Et demandez-vous toujours où sont les flux d'argent. Même, et je vous l'avais dit, quand vous regardez une chaîne YouTube, comment il se finance ? Quand vous lisez un blog, comment il se finance ? Quand vous jouez un jeu vidéo freemium, comment il se finance ? Posez-vous cette question. Comment un site marchand peut me vendre un truc trois fois moins cher tout en se faisant de l'argent ? Arrêtez de croire au Père Noël, quoi. Je le dis, le Père Noël n'existe pas. Et là, je viens de briser le cœur des 10 enfants qui étaient en train de regarder Techscope. Oui, bah regarde la vérité en face. Hein ? Mais si, il existe. Tu ne m'écoutes pas. Tu vois un mec en rouge comme ça dire ce genre de bêtises. Pff, n'importe quoi. Mon Dieu, j'ai des évanouissements dans la chatroom. Ouh là là, le tutoriel, tu nous mènes sur d'autres débats. Je ne toucherai même pas à ton commentaire. Mais bien sûr qu'il existe, le Père Noël. Il dit n'importe quoi, le monsieur. Et mais Jérôme n'existe pas non plus. Bon, désolé d'avoir... il faut que j'apprenne à fermer ma gueule. Bref, méfiez-vous, quoi. Méfiez-vous surtout quand on vous demande votre numéro de carte bleue. Et voilà. Méfiez-vous, méfiez-vous. Père Noël, mec en rouge. Bref. Didier, pour ce genre de questions, c'est en fin d'émission. Là, on fait les articles. J'arrive au dernier article, donc ça devrait aller. Oui, je sais, on a des gros problèmes de réseau ce matin. J'ai des frises. C'est pas bien beau à voir, mais bon, a priori, vous m'entendez. Donc, c'est l'essentiel. Allez, on termine le dernier article. Ça n'a pas fait rire tout le monde, mais moi, ça m'a bien fait rire. Qu'est-ce qui se passe? En fait, Samsung attaque une ambassadrice de la marque russe, puisque vous savez que Samsung paye des ambassadeurs, des influenceurs, pour devenir des ambassadeurs de la marque, donc utiliser par exemple des smartphones Samsung et en faire la promotion dans leur vie, sur Instagram, etc. Utiliser un Samsung au quotidien. Ils payent quand même assez cher. Je ne donnerai pas les tarifs, vous avez, mais ça existe si vous cherchez sur Internet. Mais ça peut coûter très très cher hein, de se payer une star ou un sportif de haut niveau pour qu'il devienne un peu l'ambassadeur de votre marque ou un YouTuber très populaire pour qu'il devienne un petit peu l'ambassadeur de votre marque. Là, Samsung attaque justement son ambassadrice russe, puisque on l'a surpris sur un plateau télé. Alors, je vous montre l'image parce que c'est quand même assez drôle. On l'a surpris sur un plateau télé à planquer un smartphone sous une feuille de papier. Et ce smartphone, je vous le donne dans le mille, c'était un iPhone. Alors, c'est pas la première fois qu'il y a ce genre d'histoire. Hein. Régulièrement, je vais voir si j'ai d'autres images. Voilà, un tweet de Gal Gadot que Marquise Brownlee avait repéré. Je vous montre son tweet parce que c'est quand même assez génial. Say hello to my new mate, Huawei Mate 10 Pro. Bon, elle avait quand même mis le hashtag ad Huawei device USA via Twitter for iPhone. Bref. On a souvent effectivement ce genre d'histoire, des gens qui se font payer pour être des ambassadeurs d'une marque et qui se font payer quand même assez cher et qui jouent pas le jeu et qui vont continuer à utiliser leur iPhone. Alors, là où c'est délicat pour Samsung, alors là, ils ont décidé d'attaquer, je pense que c'est pour faire un modèle. Il y avait aussi une bourde, ça, la bourde, elle était juste géniale. C'est Adam Levine, le chanteur de Maroon 5, qui avait fait un événement Samsung. Dans l'événement, il avait dit, il avait même fait un hashtag. Non, il avait proposé un cérémonial iPhone burning. Il avait dit à tout le monde, brûlez votre iPhone. Ouais, bah, manque de peau. Il avait tweeté ça avec un iPhone. Donc, voilà. Bon, c'était pas très, très bien passé. En 2013, le joueur de tennis David Ferrer avait promu le Galaxy S4 avec un tweet envoyé avec un iPhone. Et également, y en a plein, en fait, des histoires. Des histoires de footballeurs, etc. Donc là, la marque attaque pour 108 millions de roubles, ce qui équivaut à 1,4 million d'euros. Donc, ce n'est pas une petite attaque. Ils attaquent donc Xenia Sobchak, qui est donc leur ambassadrice russe, pour avoir utilisé un iPhone dans une émission télé. C'est vrai que ça fait quand même une très mauvaise pub, alors qu'ils ont payé pour se faire de la pub, quoi. Donc, on peut comprendre qu'ils attaquent. C'est tout à fait normal d'attaquer. Mais c'est un petit peu délicat de la part de Samsung de décider d'attaquer parce que, putain, c'est de la pub gratuite pour l'iPhone. Même quand quelqu'un est payé pour utiliser un Galaxy, il va préférer utiliser un iPhone. On peut résumer les choses comme ça. Entre tech, on sait que les choses ne sont pas aussi simples. Et moi, j'aime beaucoup les Galaxy et il n'y a pas de problème. Mais quand vous avez quelqu'un qui est payé quand même pour utiliser un smartphone, qui va préférer utiliser un smartphone concurrent, ça ne fait pas propre, quoi. Ah, il y a une grosse coupure. Ça donne pas envie d'être ambassadeur. En même temps, ils sont bien payés, hein, les ambassadeurs. Enfin, pas tous, mais certains, ils sont très, très bien payés. Donc, ouais, là, la grosse bourde, enfin, elle est un peu con-con. T'es à la télé, t'es sur un plateau de télé. Tu crois qu'en dissimulant ton smartphone sous une feuille de papier, les gens vont pas reconnaître ? Si, ils vont le reconnaître, ton smartphone. Et le truc, c'est qu'elle avait quand même signé un contrat avec Samsung s'engageant à utiliser en public uniquement un Samsung. Donc là, il y a rupture de contrat. Donc on va dire que d'un point de vue juridique et commercial, l'attaque de Samsung est tout à fait légitime. Mais c'est un petit peu compliqué au niveau communication d'attaquer pour ça. Parce que c'est admettre que tu as des influenceurs que tu as payés très cher, qui, malgré le fric que tu leur donnes, préfèrent utiliser un autre smartphone, quoi. En même temps, ça doit être chiant d'utiliser un Samsung. Écoute, moi, comme je dis, hein, je ne suis pas incorruptif, je suis juste cher. Donc, tout dépend du montant du chèque, hein. Moi, tu... J'allais être méchant alors qu'ils sont très gentils, les gens de chez Wiko. Je les ai rencontrés à l'IFA. Ouais, il faudrait peut-être un gros chèque pour utiliser un Wiko tous les jours. Mais bon, en même temps, je suis une mauvaise foi. J'ai jamais utilisé au quotidien. Tiens, ça vous plairait que je teste un jour un Wiko ? Est-ce que ça serait rigolo ? Ou pas ? Non, mais après, en toute objectivité, si un jour je teste un Wiko, il faudra que j'y aille tous mes chakras ouverts. Oui, ça la fout mal, hein, de toute façon, cette histoire. Dans tous les cas, pour Samsung, c'est pas top, quoi. Bon, on verra. On verra. De toute façon, là, j'ai pas le temps, hein. Donc ça va pas venir tout de suite. Hein. Je promets rien. Je n'ai rien promis. Vous allez pas venir me chier, m'embêter, hein, avec « Ah Jérôme, t'avais promis un test du Wiko. » Non. J'avais évoqué éventuellement la possibilité éventuelle d'entamer les réflexions sur la conception et non pas la production d'une vidéo éventuellement avec Wiko. Pour être précis. Ah, il faut toujours laisser sa chance au produit. On a peut-être des a priori. Wiko, c'est français. C'est beaucoup plus chinois que français, hein, maintenant, hein, Wiko. Le truc, a-t-on déjà vu un ambassadeur Apple utiliser un Samsung ? Apple n'a pas d'ambassadeur. Je ne suis pas en train de faire l'Apple fanboy. Je vous explique les choses telles qu'elles sont. Apple ne paye aucun ambassadeur. Ils n'ont pas besoin. Et je vais vous dire la réalité des choses. Parce que on vous ment. Tiens, c'est mon iPhone qui arrive, Chronopost. Ouais, je vais être livré entre 9h45 et 10h45. A priori, c'est l'iPhone XR. Quand je vous dis qu'Apple n'a pas besoin, mais je vais vous dire la vérité, hein, droit dans les yeux. Vous allez sur un salon comme l'IFA et vous demandez à tous les youtubeurs tech, même des gens, allez, je balance, même des gens qui travaillent sur des sites où il y a Android dans le nom, et vous leur demandez de sortir de la poche le smartphone qu'ils ont. Il n'y a pas que, mais la proportion d'iPhone est hallucinante. Je vous dis que ça. Je balance pas de nom, je dirai rien. Mais la proportion d'iPhone est hallucinante. Écoute, là après, moi je vais pas rentrer dans le débat. Je crois que ce qu'on s'est dit avec certains influenceurs, qui on a souvent d'abord deux smartphones, toujours sur nous. Ce qu'Apple apporte à un influenceur, c'est que nous, c'est un outil de travail. Un bon influenceur, je parle pas de moi, hein, mais un bon influenceur qui travaille bien sa marque, il va faire au moins une dizaine de stories par jour, beaucoup de tweets, beaucoup travailler. Et c'est vrai que l'iPhone offre une constance de performance sur des applis pour faire des vidéos, pour faire ce genre de choses. Mine de rien, on passe aussi beaucoup de temps à faire des messages et tout ça. iMessage est quand même très bien foutu, il faut le reconnaître. FaceTime aussi. Il y a des choses quand même sur iOS qui sont bien foutues pour des power users de smartphones en général. Voilà. Facile de dire droit dans les yeux. Oui, non, mais j'ai compris, Chronopost. Attends. Non, je ne serai pas absent, je suis là. Je suis là, mec. C'est facile de regarder, de dire droit dans les yeux. Avec des frises, on n'a pas une seule image de toi avec les yeux ouverts. Je suis désolé hein, pour les frises de ce matin. C'est une catastrophe. Hein. C'est une catastrophe, Thérèse. Donc, moi, je vous dis les choses telles qu'elles sont. Ce n'est pas partisan de ma part. Tout ce que je peux vous dire, c'est que beaucoup d'influenceurs, j'aime pas le terme, mais c'est un terme consacré, d'influenceurs de la tech ont iPhone. Alors, je précise qu'ils ont souvent deux smartphones. Beaucoup d'influenceurs tech ont au moins deux smartphones sur eux, voire plus. Mais beaucoup utilisent quand même un iPhone. Ça frise le ridicule. Pas mal, Romu. Non, mais c'est pour ça que je suis pas sûr que c'est l'iPhone. Hein. Parce que là, c'est Chronopost. Et t'as raison, c'est plutôt DHL qui livre normalement. Ah, mais non! Je l'ai commandé chez Orange. Donc, attendez. On va faire un check en direct. Il m'avait envoyé un truc Orange. Où est-ce qu'il est ce truc Orange? Ah ben je retrouve pas. Je ne retrouve pas. Putain, je reçois tellement de SMS maintenant. Ah, alors voilà. Je vais faire mon suivi, on va voir où il est. Expédition en cours! Livraison le 23-10. Oh, le fail. Voir les détails sur le site du transporteur. Alors c'est bien Chronopost. Donc, il y a de fortes chances que ça soit l'iPhone. Et ce qui est une très bonne nouvelle... Non, Jérôme, tu allais faire une promesse que tu n'arriveras pas à tenir. On va essayer, si jamais on reçoit aujourd'hui, de faire une vidéo unboxing prise en main pour très vite. Voilà, c'est le maximum d'engagement que je peux vous faire. Bon, en même temps, on est déjà en retard. The iCollection, il a déjà fait sa vidéo hier. Lui, il a reçu... Alors lui, il a de la chance. Putain, je sais pas comment il fait. Il se démerde bien. Hein. Salaud, va. Lui, il reçoit son iPhone direct de chez Apple. Mais il a une... je crois qu'il a... Enfin, il me l'a dit, hein, d'ailleurs. Il a un très bon contact chez Apple. Ce que je n'ai pas. Voilà. Pourquoi je l'ai pris chez Orange? Parce que je l'ai acheté avec mes points, là, l'iPhone 10R. C'est la fin de l'émission. Effectivement, on est déjà en train de partir sur d'autres sujets. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi et de l'avoir commenté avec moi. On va passer au traditionnel « Vite ton fac ». Les questions que vous avez à me poser. Y a-t-il une... Ouais, Mac Forever l'a eu aussi en avance. Pff, vraiment, c'est dégueulasse. Non, mais moi, je suis trop petit. Je suis un inconnu d'Apple. Puis, j'avoue que ça ne me dérange pas tant que ça. C'est juste que, bon, voilà, dans la course aux vues, c'est évident que quand tu sors ta vidéo avec un ou deux jours d'avance sur la sortie du produit, bah, tu te récoltes beaucoup plus de vues que les autres. Voilà pourquoi les YouTubeurs font la course. Hein. Des points, ça existe encore. Oui, je fais partie de ces vieilles personnes qui ont encore des forfaits très chers où on paye le smartphone avec. Et ça me permet tous les 2 ans d'acheter un iPhone. En fait, moi, je m'en sers comme d'un crédit de ce forfait. Ça me permet, tu sais, c'est quand même beaucoup d'argent à sortir pour une chaîne YouTube comme nous. La saison iPhone, cette année, c'est encore pire que tout. Si je peux voilà, avoir un petit crédit à la consommation tous les 2 ans, ça m'arrange. Est-ce qu'il y a un... Pas de questions platinium. Est-ce que vous avez des questions ? Tu perds plus d'argent que tu n'en gagnes. Oui, mais comme dans tout crédit, Benjamin, je connais très bien hein, les forfaits. Je sais que je paye finalement mon iPhone 10R plus cher. Mais c'est un paiement qui a été étalé. Et pour ma trésorerie, ça lui donne un petit peu de souffle. Tu sais, c'est comme tout crédit à la consommation. Il y a le loyer de l'argent. Ça te coûte toujours plus cher un crédit que d'acheter cash, quoi. Je sais hein, que c'est des crédits qui coûtent très cher, hein, les forfaits. Je sais tout ça, hein, Benjamin. Mac Forever ont sorti un test. Ouais, alors dire c'est un test au bout d'une journée, effectivement, bon, c'est un certain type de test. Pour moi, une vidéo qui sort au bout d'une journée, c'est des impressions. Bon, après, honnêtement, l'iPhone XR, il n'est pas très compliqué à tester, hein. Pourquoi ne pas prendre un vrai crédit ? Parce que je ne suis pas assez organisé, Benjamin. Penses-tu que la photo et la vidéo, l'avenir de la photo et de la vidéo est au moyen format mirrorless ? Ouh là là, non. Non, non, oula, oula, oula. Le moyen format, non. Peut-être l'avenir d'une certaine photo pro, mais tu sais, un capteur moyen format, c'est vraiment pas utile pour tout un tas de photos, hein. Même si les prix baissent. Après, je me trompe peut-être. Hein. Peut-être qu'il va y avoir un effet toutes les marques vont sortir leur moyen format, etc. Mais ça commence à faire des gros fichiers, hein, le moyen format. Hein. Il faut l'informatique derrière. Hein. Non, non, pas d'unboxing. Non, non. Si on fait une vraie vidéo, ça sera un unboxing et les premières... Première impression, je vais quand même sortir faire des photos, on va quand même tester le produit, on va quand même le regarder sous toutes ses coutures, on va tourner tout un tas de plans. Quand je dis que ça va sortir rapidement, ben je vous dis pas quand ça sort, mais on essaiera de le sortir rapidement. Voilà. Oui, oui, je sais, Fuji, tu as du moyen format et de la PSC, oui, c'est des choix stratégiques, ouais. Oui, voilà, la photo sportive, avant qu'on arrive au moyen format, on n'y est pas encore. Ce qu'il faut quand même réaliser, c'est qu'avec un capteur moyen format, il faut un putain de processeur pour traiter les images, quoi. Parce que là, on est quand même dans de la très très grosse image. Donc, si c'est pour faire du portrait en studio, très bien. De la photo d'architecture, très bien. Faire de la photo sportive, du reportage en moyen format, c'est peut-être pas le format le plus... Tu sais... Faut arrêter de croire que tout se résume dans des grandes règles simples. Plus on a un plus grand capteur, mieux c'est la photo. Non, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça. Bah parce que c'est un peu con de sortir... Pourquoi des gros fichiers ? C'est un peu con de sortir un gros capteur si tu lui mets pas quand même un gros montant de mégapixels dessus, quoi. Mais je prends mon temps, hein, et c'est gentil de dire que mes tests sont 20 fois mieux. Après, ils font 20 fois moins de vues. C'est ça aussi. C'est le prix à payer de la qualité. Mais je l'accepte tout à fait. Hein. Oui, oui, ça fait des gros fichiers, c'est ce que je dis, ça prend beaucoup de place. Mais n'oubliez pas qu'une photo doit être traitée en temps réel par un processeur d'image. C'est normal que ton live soit coupé par de la pub. Oui, il y a de la pub normalement sur mes lives, ouais. Après, vous n'en avez peut-être pas eu souvent parce que je ne dois pas beaucoup intéresser le catalogue publicitaire de YouTube. Vous savez que les pubs, j'ai beau les activer, elles ne sont pas systématiques. En fait, YouTube me met de la pub s'ils en ont en réserve à mettre. Mais ils ne vont pas mettre de la pub systématiquement sur une vidéo qui dit qu'on peut y mettre de la pub. Mais oui, mes lives sont monétisés normalement. Un éventuel Mac Mini 2018 idéal serait quoi? Qu'on puisse le blinder à mort de RAM, de tout. De faire un Mac Mini hyper puissant, ça m'intéresse carrément, quoi. Oui, c'est aussi... Alors, les moyens formats commencent à devenir de plus en plus petits, hein. C'est plus le gros moyen format qui ressemblait à une grosse caméra d'épaule. Tu as vu la Tourbox? Non, c'est quoi Tourbox pour Photoshop et Lightroom? Non, je ne sais pas ce que c'est. Un photographe m'a dit que la cible des moyens formats ne sont pas les pros, mais les amateurs experts fortunés. En fait, oui et non. Quand je dis les pros, disons que le moyen format va souvent être utilisé pour des photos de nature morte, où il y a besoin d'énormes... qui vont sortir après dans des campagnes de presse, en affichage et tout, on a vraiment besoin d'une résolution de ouf, quoi. Mais photographe pro, t'as plein de photographes pro différents, hein. C'est une console comme le Loop Deck. Mais je connais pas le Loop Deck non plus. C'est une console pour piloter Lightroom et Photoshop. J'avoue que j'ai pas testé ce genre de truc. Et vu mon niveau dans Photoshop et Lightroom, ça me serait pas très utile. Enfin, c'est plutôt... si je traitais des photos toute la journée, oui, mais c'est pas mon cas. Ne penses-tu pas que le fait que Shadow ait du mal à accepter l'app Paris OS, Apple prépare un truc comparable dans son coin? Non. De ce que je sais, j'étais chez Shadow hier d'ailleurs, pour une petite soirée. De ce que je sais, en fait, Apple demande à Shadow de développer un moyen pour que les gens puissent s'abonner à Shadow directement dans l'application mobile pour que Apple puisse se faire une marge de 30%. Et c'est pas si simple que ça. De mettre en place un système de paiement qui aura un prix différent, parce que forcément, ils répercuteront les 30% d'Apple dans le prix du Shadow, mais Apple n'accepte pas l'appli s'il n'y a pas la possibilité, comme ça a été le cas pour Hearthstone et d'autres. YouTube, le prochain TF1. En tout cas, une partie de YouTube va devenir TF1. Tous les youtubeurs qui sont dans la course à l'audience et qui font des vidéos qui doivent être vues par un maximum de personnes, donc en élargissant, pas leurs cuisses, mais en élargissant le plus possible leur sujet pour ratisser large en public, vont devenir, et c'est pas du mépris de ma part de dire ça, mais vont devenir des émissions de plus en plus commerciales, destinées à viser le plus grand public possible pour faire un maximum de vues et vivre du revenu publicitaire. Donc oui, ça va se transformer en TF1. La seule chose qu'on doit se demander, qui est importante, c'est est-ce qu'il y aura de la place pour un Arte sur YouTube ou pas ? Problème de copyright, mon fils s'est fait pirater une vidéo montée sur une course de moto, il a les boules, comment faire? Ce Gus a plus de vues que lui, il a les boules. Je suis désolé de te dire que c'est un truc qui nous pend tous au nez, qu'aujourd'hui il n'y a pas de solution simple. Il faut bien évidemment faire des reports, mais c'est absolument pas garanti de résultat. Et oui, il y a des chaînes YouTube qui pillent le contenu d'autres chaînes YouTube pour le publier à leur nom, demander à Stéphane Cochou, hein, qui s'est fait pirater une bonne partie de son contenu par des sites qui font beaucoup plus de vues que lui, sans jamais même le citer. T'as beau mettre des protections copyright, machin, c'est des sites qui arrivent à contourner ou qui vont publier ton image d'une façon que le moteur de YouTube ne va pas la repérer. Il n'y a pas vraiment, Villa, hélas, de solution simple pour ton fils. Il faut qu'il écrive à YouTube en disant « je me suis fait copier ma vidéo, machin ». Mais je ne te garantis pas qu'ils vont répondre, quoi. Un avis sur le Huawei P9, non, je ne l'ai pas eu en main. Et je ne sais pas si j'aurai en main, je vais être franc avec vous. D'accord. Ce qu'ils disent Shadow, c'est ce qui bloque actuellement, c'est le fait de proposer Windows depuis iOS. Ouais, ça gêne peut-être Apple, effectivement. Bon, enfin, en même temps, Apple accepte Parallels et tout ça sur macOS. Ouais, bon, à voir. Est-ce que je ferai un test de l'iPhone XR versus l'iPhone X? Écoute, je sais pas, parce que c'est vite fait, hein. C'est simple, hein. Dans l'unboxing, je vous dirai les choses qui sont différentes entre l'iPhone XR et l'iPhone XS. Ça vous aidera déjà à choisir, hein, parce que c'est relativement simple. Hein. Est-ce que ça mérite de faire une vidéo comparative? Je serais plus intéressé de faire le Pixel 3 versus le XR, par exemple. Tu penses quoi du dérapage de The Eye Collection avec S? Je ne suis pas au courant de l'histoire. Déjà, désolé, hein, Benjamin. Il y aurait eu un dérapage avec SFAM. C'est quoi SFAM? Je ne suis pas du tout au courant de cette histoire. Désolé, je ne suis pas dans les potins. Pour toi, quel est le meilleur smartphone? Eh bien, le meilleur smartphone, c'est celui qui te conviendra le mieux. Et c'est la seule réponse que je vais te donner. Parce que cette obsession à vouloir savoir quel est le meilleur smartphone est complètement vaine et vous jouez le jeu du marketing des marques. Et c'est stupide. Il n'existe que des smartphones qui sont adaptés à tel ou tel usage, à tel ou tel usager. Selon votre budget, l'importance que vous accordez aux photos, ce que vous faites avec votre smartphone, combien de fois vous changez votre smartphone. Donc, ton smartphone parfait ne sera pas le smartphone parfait de quelqu'un d'autre. Est-ce que je vais couvrir la conférence Samsung début novembre? Je ne pense pas que j'aurai le temps. Pourquoi dans ton comparatif avec Guillaume Slash, vous n'êtes pas basé sur les fichiers natifs RAW? Très bonne question parce que tout le monde me l'a posé et j'ai fait l'erreur de ne pas vous le préciser. En fait, maintenant quand je vais comparer des smartphones, le RAW ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, ce que les smartphones font très bien, c'est justement le traitement électronique de l'image. Et si tu regardes les fichiers RAW d'un smartphone aujourd'hui, que ce soit le Note 9 ou d'un iPhone, franchement, ils ont peu d'intérêt. Et ça vient aussi de ma manière d'utiliser mon smartphone. J'avoue que je ne débraye plus du tout mon smartphone. Pourtant, j'aime faire de la photo. Mais si je veux débrayer, si je veux faire une photo en RAW, je prends mon appareil photo. Il m'arrive quand même de temps en temps de faire un RAW quand je suis dans une situation très compliquée avec un smartphone où je sais que les réglages automatiques ne vont pas s'en sortir. Mais ça a dû m'arriver deux fois avec l'iPhone 10, tu vois. Ah, il y a une grosse coupure. C'est revenu. Bon. Alors, en plus, c'est pas tout à fait vrai. Alors, sur le test avec Guillaume, j'ai pas montré les RAW, mais vous avez vu des RAW, justement pour vous expliquer. En fait, une photo RAW sur l'iPhone XS qui n'est pas dénoisée, elle va vous paraître complètement dégueulasse. Parce que elle aura beaucoup de grains, puisque comme je l'avais montré dans ma vidéo, l'iPhone XS pousse vachement plus les ISO que les autres smartphones. Donc, en fait, ma conviction, c'est que même si c'est agréable de pouvoir prendre une photo, en fait, ce qui me plaît dans le RAW sur smartphone, c'est de me dire « je peux éventuellement ». Mais pour moi, un smartphone, je parle de mon usage, il prend toute son importance d'appareil photo en mode automatique. Et le mode automatique des smartphones est bien meilleur que le mode automatique de n'importe quel autre appareil photo. Je rêverais d'avoir d'aussi bons réglages automatiques sur mes appareils photo. Et en ça, les smartphones sont beaucoup plus forts. Bah, d'abord parce qu'ils ont un capteur plus petit, donc ils peuvent, et ils embarquent quand même des puces de traitement beaucoup plus puissantes que les appareils photo. C'est en ça que c'est intéressant, je trouve, le smartphone en photo. Donc, ouais, putain, il est 9h14 déjà. Faut que je vous quitte. En plus, j'ai oublié mon Apple Watch. Dès que j'ai mon iPhone, faut que je retourne chez moi prendre l'Apple Watch. Là, je suis comme un poisson qui aurait sauté du bocal. Je n'arrive pas à respirer sans mon Apple Watch. Bon, allez, je vous fais des gros bisous. Ah oui, alors lundi, on vous fera le Techscope de notre chambre d'hôtel. Je le répète, hein, on veut décevoir personne. On descend à Bordeaux, mais c'est pour un enterrement. Donc, on n'aura pas vraiment le cœur à faire un Outtake Drink à Bordeaux. On redescendra un jour sur Bordeaux pour faire un Outtake Drink avec vous. Mais là, on y est pour des circonstances familiales. On vous fera quand même le Techscope lundi matin de la chambre d'hôtel. Et puis, après, je vous retrouve le mardi de l'atelier. Voilà. Merci, Adrien, pour ton super chat. Que penses-tu de l'IA des smartphones? Ben, c'est ce que je viens de dire. L'IA des smartphones est très intéressante en photo. C'est ce qui m'intéresse le plus, en fait. Partager avec vous. Allez, j'arrête, sinon on m'arrêtera jamais. Je vous fais des gros bisous et à lundi. Passez un excellent week-end. Ciao tout le monde.